Madame la Présidente, et merci à la délégation luxembourgeoise pour déjà ces réponses circonstanciées par rapport au premier round de questions. Alors, ma première question va porter sur le niveau de vie et la problématique de la pauvreté. J'ai vu dans les statistiques qui nous sont fournies, mais qui s'arrêtaient en 2017, que le taux de pauvreté au Grand-Duché de Luxembourg auprès de la population d'enfants est en augmentation. Comme c'est malheureusement le cas dans de nombreux pays, et on peut craindre que ce phénomène se poursuive du fait de la pandémie. Et donc ma question était de voir s'il y a des chiffres plus récents après 2017 et qu'est-ce qui est mis en place en termes de moyens d'action et de réaction par rapport à cette problématique spécifique. Et notamment, il y a un petit pourcentage de la population qui est considérée comme étant en situation de privation alimentaire et qui doit donc peut-être plus particulièrement bénéficier d'une attention. Et donc, quels sont les dispositifs qui sont mis en place en ce qui les concerne? Alors, pour la question de l'accès à la santé et la santé des enfants, vous y avez déjà partiellement répondu, mais j'aimerais vous amener à revenir sur la question des effets du Covid sur la santé, sur la santé mentale des enfants. On a vu sur les questions liées au suicide, mais sur la problématique de la prévention en matière de risques de santé mentale et en particulier de nouveau du fait de la situation actuelle. J'avais aussi une question toujours en matière de santé, mais qui rejoint celle qui avait été posée par ma collègue Suzanne Hao en matière de prévention de la toxicomanie. Quels sont les programmes mis en place et quelle est la politique du Grand-Duché par rapport à la toxicomanie auprès d'une population de jeunes et quelle est l'approche? Est-ce que c'est plutôt une approche de pénalisation ou une approche en matière de santé publique? Dans le secteur de l'éducation, je constate d'abord que les chiffres et les statistiques qui nous sont fournis montrent qu'il y a une baisse du taux de scolarisation, en particulier dans l'enseignement secondaire, mais les statistiques de nouveau s'étendent, s'arrêtent en, je crois, 2018. Et donc j'aurais voulu voir s'il y a des suites qui ont été réservées à des chiffres peut-être plus récents et de voir qu'est-ce qui est mis en place pour lutter contre ce décrochage scolaire la diminution du taux de scolarité. Et de nouveau, évidemment, en lien avec la situation de Covid actuellement, quelles ont été les mesures qui ont été prises par le Grand-Duché en matière de garantir l'accès à la scolarité des enfants dans cette période particulière. J'ai constaté à la lecture de différents documents que il semble que la problématique du décrochage scolaire et de l'exclusion scolaire soit une problématique qui soit malheureusement présente également au Grand-Duché. J'ai vu avec plaisir qu'il y a eu la mise en place d'un service de médiation scolaire qui a été créé relativement récemment et qui est encore en phase de mise en place et de développement, mais c'est une approche qui me paraît vraiment très très intéressante. À cet égard-là, je me pose la question de savoir comment ce service est connu auprès des enfants, des élèves et des jeunes et dans quelle mesure ils sont informés de leur possibilité de pouvoir accéder à ce service et bénéficier finalement de cette aide. Toujours en matière d'enseignement et d'éducation, on y a touché un petit peu à travers la question de la violence contre les enfants, mais les programmes de prévention spécifiques en matière de violence dans le contexte scolaire, qu'est-ce qui est mis en place? Et on sait que malheureusement, souvent, c'est un domaine dans lequel le harcèlement, le bullying peut être présent. Et alors, dernière question dans le domaine de l'éducation, porte sur la notion d'éducation aux droits de l'homme, aux droits humains en général et aux droits de l'enfant. avec deux aspects. C'est d'une part en quoi et comment les professionnels qui travaillent avec les enfants sont formés et informés en matière de droits humains, et en quoi les droits de l'enfant sont enseignés et comment les droits de l'enfant sont enseignés à l'école. On sait que il est vraiment important de pouvoir garantir que les enfants soient informés à propos de leurs droits. Et alors, pour terminer en termes de thématique, mais c'est pas la moindre, c'est toute la question des enfants et de la justice. Alors, un volet touche peut-être plus particulièrement à la question de la détention provisoire. Alors, vous rappelez effectivement dans votre rapport que les enfants ne sont pas détenus provisoirement, mais ils sont quand même, ils peuvent être privés de liberté avant un jugement. Il n'apparaît pas dans les textes où ça ne ressort pas de manière très claire quelle est la durée pendant laquelle ces enfants peuvent être détenus avant d'avoir été jugés au fond par le tribunal de la jeunesse. Et donc, quelle est la durée de séjour, par exemple, dans une institution comme l'UNICEF qui accueille des enfants qui sont placés privés de liberté. La législation semble toujours permettre une détention en milieu pénitentiaire malgré la création et la mise en place de l'UNICEF. Et donc, c'est une préoccupation, même si les chiffres semblent relativement bas, c'est une préoccupation que le comité peut exprimer par rapport au fait que la détention dans un contexte pénitentiaire est encore possible compte tenu de l'article 37 de la Convention et du commentaire général numéro 24, et je vous demanderai de bien vouloir vous en expliquer. Pour revenir peut-être un instant à l'UNICEF, j'aurais voulu avoir des informations sur les conditions de séjour, de prise en charge, quels sont les programmes qui sont mis en place dans ce contexte-là. Et en particulier, quelles informations sont données aux enfants et aux jeunes concernant le respect de leurs droits, et quels sont les mécanismes de surveillance et de plainte qui sont accessibles.